pour, dit-il, former une large majorité plurielle.
Oui, personne ne l'a emporté, voilà la phrase dans cette lettre aux Français qui suscite l'indignation de la gauche et du RN. Déni de réalité, dénoncent les dirigeants du nouveau Front Populaire, cet attelage donc de la gauche et des écologistes qui ont le plus grand nombre, c'est vrai, de députés, presque 190, mais loin de la majorité absolue. Voilà pourquoi il faut laisser un peu de temps aux forces politiques, écrit Emmanuel Macron, pour bâtir des compromis ainsi qu'une majorité solide et plurielle. Jean Quatremer, pour vous, quand le chef de l'État dit que personne n'a remporté ces législatives, il a raison.
Évidemment qu'il a raison, c'est un constat évident. Vous avez trois minorités, alors qui se tiennent plus ou moins, qui sont à coude, et personne n'est en mesure, un bloc, aucun des trois blocs, c'est-à-dire le Nouveau Front Populaire, le bloc central et le Rassemblement National et ses alliés, n'est en mesure d'imposer un Premier ministre. C'est-à-dire qu'actuellement, dans le rapport de force actuel, un Premier ministre est nommé, par exemple, il présente un projet de loi, il peut y avoir une motion de censure et le Premier ministre tombe. Mmh. Ça peut aller extrêmement vite. Et donc on rentre dans une période d'ingouvernabilité.
Il y a quand même un bloc qui est arrivé en tête.
Oui, il y a un bloc qui est arrivé en tête avec 10 ou 15 députés de plus que bloc ensemble et à plus de 100 voix de la majorité absolue. Donc il faut attendre que des accords se fassent, qu'ils soient prêts à gouverner ensemble. Ça paraît mal parti parce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon avait décidé de s'imposer comme candidat Premier ministre du nouveau
Front Populaire. Son nom, en tout cas,
voilà, c'est ça. Ouais. Et là, ça suffit pour que ça bloque tout accord.
Alors, ce retour, en quelque sorte, du Nini, c'est-à-dire ni RN, évidemment, contre lequel s'est formé un Front Républicain au second tour des élections législatives, mais ni LFI aussi, qui est d'ailleurs en filigrane dans la lettre du chef de l'État. Est-ce que vous inspire ce retour du Nini? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une coalition potentielle entre les deux, justement, entre le RN et la France Insoumise, qui pourrait émerger à terme?
En tous les cas, déjà, je rejette le mot « coup de force », parce qu'il faut arrêter avec ça. Il y a une constitution, la constitution est toujours en vigueur, et une des prérogatives du président de la République, c'est de choisir le Premier ministre qu'il veut. S'il choisit un Premier ministre qui va ensuite, qui est confronté à une motion de censure, c'est son problème, mais en tous les cas, pour l'instant, il y a des institutions,
dans les textes, elles fonctionnent. Il peut vous appeler, d'ailleurs.
Il peut m'appeler, absolument.
Au point où on en est,
au point où on en est, absolument, mais il pourrait le faire. Et il n'est pas limité, donc il faut arrêter de parler de coup de force. Il y a des institutions, tous les constitutionnalistes français disent exactement la même chose. Ça, c'est la première chose. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la constitution d'une majorité en tous les cas, que deux blocs s'entendent, c'est absolument impossible parce que pour le bloc centriste, LFI, on ne peut pas gouverner avec LFI. Et d'ailleurs, LFI, en poussant la candidature de Jean-Luc Mélenchon, comme je disais tout à l'heure, fait que ça rend tout à fait impossible une majorité. C'est-à-dire qu'on va vers un chaos général.
Ils le font à dessein, selon vous?
Ah, pour moi, c'est à dessein, parce que tout le monde sait. Vous savez, quand une partie des mélenchonistes disent, enfin des mélenchonistes, par exemple, de LFI, disent qu'ils vont envoyer Mélenchon à l'EHPAD, je ne suis pas le seul à le dire. Donc on est quand même. Aujourd'hui, on ne peut pas gouverner avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre, je vous assure, ça explose, parce que les gens qui ont voté Nouveau Front Populaire n'ont pas voté pour avoir Mélenchon comme Premier ministre.
À propos de dessin.
J'aime bien rencontrer des gens, dit-il. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. L'ancien Premier ministre parle même d'un dîner cordial, je cite, malgré des désaccords très profonds sur de nombreux sujets. Alors fallait-il partager un entrée-plat-dessert pour constater ces désaccords ou bien coulait-il de source? L'épisode fait penser à la discrète rencontre entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 1988, là aussi au domicile d'un ami commun, le député Pierre de Bénouville. Les proches de Jacques Chirac ont longtemps démenti ce rendez-vous secret. Aujourd'hui, cela semble visiblement plus facile à assumer. Édouard Philippe et Marine Le Pen, qui sont les deux personnalités données en tête pour les sondages de l'élection présidentielle de 2027.
Jean-Romère, est-ce qu'Orban menace peu à peu la crédibilité de la diplomatie européenne?
La question est vite répondue. Oui, c'est évident. Parce qu'il se trouve que, par ailleurs, son pays exerce actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Il n'est pas le président de l'Europe. Il est pendant 6 mois, les ministres hongrois président les formations techniques. Mais néanmoins, en faisant ça, évidemment, il se met en avant comme étant le président de l'Union européenne auprès de ces pays, auprès de Donald Trump. Et le message qu'il envoie est évidemment totalement catastrophique. Parce que, par ailleurs, ça montre que nous sommes désarmés face à Orban, qui ne joue pas le jeu européen. Et on n'a pas pas les moyens de le foutre dehors. C'est quand même un truc incroyable. Je veux dire, il est libre de partir. Il est libre, il peut partir quand il veut. Moi, je peux comprendre qu'on ne veut pas être européen.
Ce sont les règles de l'Union européenne.
Il peut faire un ongzit du jour au lendemain sans aucun problème. Le problème, c'est qu'il a besoin de notre argent. Donc, en fait, il nous crache au visage. Donc, il prend des milliards et des dizaines de milliards d'euros, hein, parce que là, on n'est pas à 10 milliards, on parle de dizaines de milliards. Et par ailleurs, il mène sa diplomatie solitaire et contraire aux intérêts de l'Union européenne.
Jean-Louis, en dehors de que justement, l'Union européenne, je ne crois pas qu'on...
Comme je connais bien l'Union européenne, il y a un principe de collaboration loyale qui est inscrit dans le traité, oui, justement.
Mais il dit
et donc
qu'il
on
le respecte.
Fait, eh ben, sauf que tous les autres lui disent non.
Mais lui
violer,
dit qu'il
le
respecte. Ensuite,
une histoire belge qui pourrait bien nous inspirer.
Oui, et si nous regardions du côté de la Belgique, là-bas la culture de la coalition est naturelle, voire indispensable, avec le régime parlementaire et le vote à la proportionnelle pour former un gouvernement. Alors, avec des accouchements parfois dans la douleur, hein, cela dit, par deux fois, c'est 15 dernières années, il a fallu plus de 500 jours pour arriver à former une coalition, des partis qui se mettent d'accord avec des tractations, mais au moins le système belge favorise une recherche de compromis, de dialogue entre les forces politiques bien supérieures à celles de notre 5e République. Écoutez d'ailleurs les conseils d'un journaliste belge, le chef du service politique du journal belge Le Soir.
Je pense que le premier conseil, c'est sans doute de rester zen. Je pense que ce ne sera pas inutile dans les circonstances actuelles. Ça peut amener un deuxième point, c'est de prendre le temps. Alors, soyez rassurés, ça fonctionne en Belgique. Gardez votre calme surtout. Ne pensez pas que parce que vous n'avez pas de gouvernement dans la semaine, dans le mois, voire même dans plusieurs mois, un pays est nécessairement au bord de la faillite.
Voilà,
qui est un émigré outre-quiévrin, comme on dit. Est-ce qu'effectivement, ça marche très bien sans gouvernement et...
D'abord, c'est
en Belgique, mais ça ne pourrait pas marcher en France.
Il y a un point de différence qui est fondamental, c'est que la Belgique est un État fédéral, comme l'Allemagne est un pays fédéral. Donc, si vous n'avez pas de gouvernement, la plupart des autres compétences peuvent être exercées au niveau régional.
Les régions ont beaucoup plus de pouvoir qu'en France.
Mais absolument. Par exemple, en Allemagne, c'est les Länder qui ont des compétences en matière d'éducation, en matière de justice, en matière de police.
Donc,
ce que n'ont pas les régions françaises. Donc, quand il y a des crises qui durent longtemps, par exemple en Espagne, c'est arrivé, en Italie aussi, des pays qui se sont fédéralisés beaucoup plus que la France, donc c'est beaucoup moins grave que lorsque ça arrive en France.
Mais est-ce que ça veut dire du coup que si la situation elle continue comme ça sans gouvernement, qu'il faudra réformer nos institutions ?
Oui, mais ce qui est fascinant...
Pour arriver à cette culture de compromis, j'entends.
Je rebondis sur le premier débat, parce que ce que vous avez dit est totalement inexact sur la 4e République ou la 3e République. Je veux dire que, contrairement à ce qu'on pense, c'est que l'affrontement bloc contre bloc, c'est une invention de la 5e République. Et encore, on a inventé la 5e République, justement, pour pouvoir gérer une assemblée avec des majorités relatives. C'était ça l'idée de Michel Debré. C'est que ce qui a tout changé, c'est l'élection du président au suffrage universel en 1962. Mais la tradition française, la tradition de la République française depuis sa fondation, c'est le compromis, c'est l'accord entre des forces que tout oppose et on arrive à trouver des compromis. Donc aujourd'hui, on redécouvre le compromis en disant « Ah mon Dieu, c'est merveilleux !» Alors que la France l'a inventé. Pas les Anglais. Les Anglais ont inventé la démocratie, mais c'était une démocratie d'affrontement bloc contre bloc. Nous avons inventé le compromis. Avec